Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le déficit de la sécurité sociale va replonger cette année entre 1 et 4 milliards et demi d'euros. Voilà ce que dit la commission des comptes. Nous vous expliquerons pourquoi. Nous irons ensuite à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où 15 paramédicaux d'urgence sur 19 sont en arrêt maladie. Ils sont exténués. Une nouvelle mobilisation des personnels de l'hôpital public est prévue ce mardi. 12 enfants de djihadistes français ont été rapatriés en France hier. Quelle prise en charge à leur arrivée? Antoine Marette s'est penché pour nous sur la question. Et puis nous reviendrons sur la situation au Burkina Faso qui fait face à des attaques répétées de djihadistes. Au moins 19 corps hier ont été retrouvés dans le nord du pays. Le retour à l'équilibre pour les comptes de la sécurité sociale devrait donc être officiellement renvoyé à plus tard aujourd'hui. La commission des comptes de la Sécu se réunit ce mardi. Il n'y aura pas l'excédent tant attendu de l'ordre de 100 millions d'euros en plus, non. L'historique retour à l'équilibre a été balayé. Cela fait suite aux mesures d'urgence adoptées en décembre dernier, comme une réponse à la crise des Gilets jaunes, Manuel Ruffez.
Dès janvier, la ministre de la Santé l'a elle-même acté. Le retour à l'équilibre en 2019 est compromis, dit alors Agnès Buzyn, après les annonces présidentielles en pleine crise des Gilets jaunes. Le rapport du Haut Conseil du financement à la protection sociale le chiffre dans la foulée. Il anticipe un déficit en hausse de 3,5 milliards d'euros, bien loin de l'excédent de 100 millions attendus, bien loin même du déficit d'1,2 milliard enregistré en 2018, pourtant le plus faible depuis 2001. Il y a donc les mesures gilets jaunes qui privent la Sécu d'environ 2,5 milliards d'euros de recettes, exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et CSG revue et corrigée pour les petites retraites entre 1200 et 2000 euros. Et puis il y a un ralentissement de la croissance qui là aussi devrait peser sur les recettes à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Sur cette nouvelle trajectoire et sans modification notable, l'équilibre des comptes n'est plus à l'ordre du jour.
Au chapitre économique toujours, car c'est bien les économies demandées qui engendrent cette colère et cette fatigue, un rassemblement des personnels de l'hôpital public est prévu ce mardi à 11h30 devant le ministère de la Santé à Paris, ainsi que devant plusieurs agences régionales de santé. L'intersyndicale demande plus de moyens pour l'hôpital, tous services confondus. Les personnels ont rejoint la mobilisation des urgences qui sont en grève depuis près de 3 mois maintenant. Les annonces non chiffrées de la ministre Agnès Buzyn la semaine dernière n'ont satisfait personne. À Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, la plupart des paramédicaux d'urgence de nuit sont en arrêt maladie depuis samedi pour cause d'épuisement, Véronique Julia.
Tous ces arrêts maladie d'un coup, évidemment, ça fait du bruit. Mais l'épuisement ici, on le vit toute l'année. Et toute l'année, il y a des arrêts maladie pour burn-out, explique Emilio. Il est infirmier à Saint-Antoine.
Il y a une petite mamie qui vous demande de lui mettre le bassin parce qu'elle a urgemment envie d'aller aux toilettes. On est obligé de lui dire, attendez, j'arrive 2 minutes. Le temps d'arriver, la dame s'est fait pipi dessus. C'est hyper dégradant, on se sent inhumain.
Les personnels réclament plus d'effectifs, un coup de pouce salarial, l'arrêt des fermetures de lits. Agnès Buzyn ne répond à rien de tout cela, regrette Emilio.
Son personnel soignant est épuisé, n'en peut plus, et elle nous propose de faire plus d'heures supplémentaires. Ça n'a pas de sens, elle est complètement à côté de la plaque.
Toujours plus de passages aux urgences, trop peu d'effectifs en face. C'est aussi ce que constate Monique. Elle vient quasiment toutes les semaines ici à cause de sa vieille maman de 93 ans.
On les voit tout le temps en train de gesticuler à droite et à gauche. C'est formidable ce qu'ils font, mais moi je ne pourrais pas le faire. C'est très très dur. Il faut vraiment aimer son métier, surtout dans ces conditions.
À l'accueil des urgences sur le Livre d'Or, beaucoup de patients ont laissé des petits mots de soutien. Tiens, tenez bon, on est avec vous. Parmi eux, Isabelle, elle compatit, mais accuse aussi la médecine de ville et les patients eux-mêmes, parfois, de trop compter sur les urgences.
Vous avez quelqu'un qui vient avec un bobo doigt, un ongle incarné, une connerie, il n'a rien à faire là.
C'est d'ici à Saint-Antoine qu'est parti le mouvement de grève des urgences fin mars. Il concerne désormais plus de 80 services en France.
Les hôpitaux mobilisés donc, alors que le Sénat doit adopter aujourd'hui le projet de loi santé d'Agnès Buzyn. Il prévoit notamment de lutter contre les déserts médicaux. Paris a rapatrié 12 enfants de familles djihadistes françaises arrêtées en Syrie. Remis aux autorités par les Kurdes, ils sont arrivés hier à l'aéroport de Villacoublay. La plupart sont orphelins, très fatigués. Ils étaient retenus dans des camps du Kurdistan syrien. En mars dernier, déjà 5 orphelins ainsi qu'une fillette dont la mère avait été condamnée ont été rapatriés en France. Et l'on sait comment ils avaient été pris en charge, Antoine Marette.
Dès leur retour en France, ces enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont des traumatisés de guerre et sont donc pris en charge de façon sanitaire, médicale et psychologique en dehors de leur famille d'origine. Ils sont placés dans des familles d'accueil spécialement formées ou dans des foyers avec des éducateurs spécialisés. Pendant ce temps, le juge des enfants diligente une enquête sur les personnes qui, dans leur famille restante, seraient susceptibles de les accueillir, grands-parents, tantes ou encore oncles. Maître Marie Dosé est l'avocat des familles françaises dont les enfants sont au Kurdistan syrien.
Dès que ces enfants rentrent en France, on doit les protéger de leur histoire. Ces enfants sont d'abord des enfants qui doivent un jour ou l'autre retrouver une vie normale, aller à l'école et se fondre dans l'anonymat de l'enfance parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ce qu'il faut lorsqu'ils rentrent, c'est les laisser tranquilles. On va déjà devoir un jour ou l'autre leur expliquer ce qui leur est arrivé et donc l'important c'est de les préserver de cette histoire.
Il reste encore 200 enfants françaises en Syrie. La France a choisi de les rapatrier au cas par cas. Une troisième vague de retour devrait avoir lieu prochainement.
Un nouveau massacre dans le centre du Mali. Une centaine de personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi. Des maisons incendiées, des animaux abattus. Une attaque qui pourrait s'inscrire dans le conflit qui oppose toujours les communautés Peul et Dogon, éleveurs et agriculteurs. En mars dernier déjà, plus de 150 Peul avaient été tués. Cela avait entraîné la démission du gouvernement au Mali. Et après le Mali, le Burkina Faso, devenu lui aussi la cible des djihadistes en Afrique de l'Ouest. Les attaques se multiplient à un rythme effrayant. Violence mise en lumière il y a un mois après l'assaut meurtrier lancé pour libérer des otages, dont deux Français. Hier encore, 15 corps ont été découverts dans un village au nord du Burkina. Retour sur la situation avec Claude Guibal.
Pas une semaine désormais sans une attaque. Des violences qui ont commencé en 2015 après la chute du président Blaise Compaoré. Les djihadistes venus du Mali voisin se sont engouffrés dans le chaos né de l'insurrection. Ils se sont principalement implantés dans les zones délaissées par les autorités, zones frontalières en déshérence, aux populations pleines de ressentiment envers l'État central. Après les attaques contre les intérêts occidentaux, les djihadistes au Burkina Faso semblent avoir adopté la stratégie désormais de la division intercommunautaire. À chaque attaque contre une église, contre un village, un cycle de violence qui se répondent. L'attaque de dimanche s'est déroulée à Arbinda, dans le nord du pays, alors que les forces de défense et de sécurité mènent une grande opération antiterroriste dans cette zone. Or, début avril, au même endroit, 62 personnes avaient déjà été tuées lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Aujourd'hui, l'État, incapable d'assurer la sécurité, laisse la main aux milices d'autodéfense villageoises qui font régner leurs lois. L'influence de ces milices qui se substituent dans de grandes parts du pays à l'autorité de l'État inquiète les experts qui dénoncent le risque de dérive communautaire, car à chaque attaque, les représailles ne tardent pas. Elle s'exerce principalement envers une communauté, les Peuls, un peuple d'éleveurs nomades majoritairement musulmans, détestés par les agriculteurs majoritaires qui les accusent de détruire leurs terres et les récoltes au passage de leur bétail. Des Peuls que la Katiba du Massina, un des plus puissants groupes djihadistes d'Afrique de l'Ouest, cherche à instrumentaliser pour qu'ils rejoignent les rangs du djihad.
Claude Guibal, que nous retrouverons à 7h24 tout à l'heure pour son reportage de la rédaction, reportage tourné au Burkina Faso ces derniers jours. La déforestation se poursuit inexorablement sur notre planète. Entre 2010 et 2020, 50 millions d'hectares de forêts auront été détruits, l'équivalent de la surface de l'Espagne. Des forêts rasées pour produire du bois, mais également du soja, de l'huile de palme ou pour faire paître le bétail. Greenpeace International le dénonce ce matin dans un rapport. Il apparaît difficile aujourd'hui de s'approvisionner de façon responsable et la filière soja est notamment en cause, Anne-Laure Barral.
L'Amazonie, le Grand Chaco ou encore le Cerrado, tous ces massifs forestiers d'Amérique du Sud souffrent aujourd'hui de notre appétit pour la viande, selon ce rapport, puisque nous importons du soja produit là-bas pour nourrir principalement nos poulets, explique Cécile Lebas de Greenpeace France.
On n'en est pas forcément conscient aujourd'hui, mais quand on mange du blanc de poulet, on mange aussi le soja qui a servi à nourrir ce poulet. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour produire 100 grammes de blanc de poulet, il faut 109 grammes de soja.
L'Europe importe 33 millions de tonnes de soja par an et impossible de relocaliser toute cette production sur les terres de l'Union européenne, estime la porte-parole de l'ONG.
On a fait des calculs à Greenpeace et on s'est rendu compte que si on voulait produire la totalité du soja dont on a besoin, il faudrait à peu près dédier la superficie de la Belgique et de l'Autriche réunies pour pouvoir produire le soja qui viendrait nourrir ces animaux d'élevage. Donc de toute façon, il faudra passer par une réduction de la consommation de viande et de produits laitiers.
Par exemple, en France, nous consommons aujourd'hui près de 90 kg de viande par an et par habitant en moyenne. L'ONG estime qu'il faudrait atteindre 16 kg en 2050, c'est-à-dire à peu près 45 grammes par jour, pour respecter notamment l'accord de Paris sur le climat.
En bref, maintenant, notons la mort de la militante féministe coréenne Lee Hee-ho. Elle était la veuve de l'ancien président sud-coréen prix Nobel de la paix Kim Dae-jung. Après la mort de son mari, elle avait continué à soutenir les efforts de paix avec Pyongyang en se rendant notamment à plusieurs reprises au nord de la frontière. Lee Hee-ho avait 96 ans. La pluie tombera encore ce mardi sur l'Hexagone, d'abord sur une large partie ouest. Seul le nord-est sera épargné ce matin. Puis cet après-midi, les averses vont toucher tout le pays. Les températures restent assez fraîches avec 11 degrés ce matin à Brest, 14 à Bordeaux et Besançon, 15 à Lille et Lyon. Comptez 16 degrés ce matin à Paris et 21 à Nice.